peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes.
En selle pour 25 minutes.
Alors on va commencer par prendre le cheval au mot, et aujourd'hui le mot amble. Alors tu voudrais nous expliquer, Jean-Yves, au fond ce qu'est l'amble.
Ben, l'amble, c'est une allure, à mon avis, puisque c'est toujours appris comme ça, artificielle, mais ça peut devenir une allure naturelle. Donc l'amble, c'est le cheval qui se déplace latéralement par l'antérieur gauche et le postérieur gauche, et l'antérieur droit et le postérieur droit, à la place du pas normal qui est droite, gauche, gauche, droite. Voilà, c'est devenu, pour moi, c'est une allure artificielle maintenant.
C'est une allure, pour toi, c'est une allure artificielle.
Et, puisqu'on entrave les chevaux pour leur faire faire l'amble. Et c'est une allure économique, une allure qui permet d'aller loin, longtemps, et puis sans secousse, pour les gens un peu fragiles, les dames, les ecclésiastiques, les gens un peu fragiles, ont acheté des chevaux ambleurs, et on pouvait faire comme ça, plusieurs kilomètres sans problème.
C'est ça. Et alors un cheval qui amble, qui sait ambler, est-ce qu'il est plus résistant sur un long trajet par rapport à un cheval qui trotterait, par exemple?
Ben là, je ne sais pas, parce que j'ai peu d'expérience sur un cheval qui amble naturellement.
Tu en as mis à l'amble toi-même?
Oui, bien sûr. Latéralement, c'est pas difficile. On entrave le cheval latéralement et puis il se met à ambler. Il ne peut pas se déplacer autrement. Hein.
Et une fois que les chevaux que tu as mis à l'amble, une fois qu'ils ont su ambler, est-ce qu'ils peuvent reprendre facilement le trot?
Ils s'habituent, mais au début, ils sont un peu gênés, bien sûr, parce que c'est pas naturel du tout. J'ai jamais vu, moi, ici, un cheval naître avec l'amble naturel.
Alors, on dit justement que les poneys islandais sont naturellement ambleurs, hein.
Mais peut-être, je connais mal les poneys islandais, mais peut-être, enfin, je sais qu'ils font le toit, toujours.
Oui. Alors, le toit, tu peux nous expliquer ce que c'est?
Le toit, il trotte devant et il galope derrière.
Il trotte devant et il galope derrière, oui. Alors, c'est aussi considéré comme une allure défectueuse, en fait. Hein.
Ben, apparemment, oui, c'est pas une allure tout à fait naturelle, hein. Un poulain, il a le pas, le trot et le galop, c'est les trois allures naturelles qu'il a.
Ce sont les trois allures naturelles qu'il a. Alors, amble, c'est un emprunt vers la fin du XIIe siècle à l'ancien provençal amblard, lui-même issu du verbe latin ambulare, qui signifie se promener ambulare, qui a donné, par exemple, ambulance.
Hein. Ambulance, oui.
Voilà. Alors, amble a survécu au verbe ambler, qui est synonyme d'aller à cheval à une allure modérée.
Oui, disons que ce sont des chevaux qui font des moyennes de 25-30 à l'heure, et par la lampe, il est presque comme le trot. Hein.
C'est presque comme le trot, voilà. Du XIIe siècle au XVIIe siècle, on parle d'ambleur pour le cheval, mot également utilisé en vénerie pour décrire l'allure du cerf, hein, du cerf. Hein.
Oui, ah, mais voilà. C'était surtout la girafe qui amble.
Et la girafe également, absolument. Mais enfin, chez nous, on trouvait plutôt, dans les bois de salmièges, on trouve plutôt des cerfs que des girafes.
Oui, ça c'est vrai, oui, c'est vrai.
Encore que girafe, des grandes filles avec un grand cou, je sais pas, bon. Alors, amble rentre aussi dans certaines expressions comme amble des marchands au milieu du XVIIe siècle pour parler du trot, que l'on retrouve aussi chez Jean de La Fontaine, hein, le poète, sous la forme cheval d'amble. Mais on va éviter, comme on le disait au XVIe siècle, de mettre aux ambles un poulain, autrement dit de le soumettre, de le dompter, avec pour inévitable conséquence de perdre l'amble, c'est-à-dire d'échouer dans cette tentative.
Ah bon.
Voilà. Ce amble, on le voit, a quand même beaucoup de sens voisins, mais quand même un petit peu différents. Alors, on va reprendre notre chronique sur les croisades, mais vues du côté arabe. Alors, de 1096 jusqu'à 1291, soit pendant presque deux siècles, l'Occident chrétien va mener 8 croisades en Orient. Il faudra attendre le 18 mai 1291 pour que le sultan Al-Ashraf Khalil reprenne la ville de Saint-Jean-d'Acre, puis Sidon et Beyrouth 2 mois plus tard, en juillet de la même année. Tout se précipite alors. En août, les Francs évacuent le port méditerranéen de Tartous, au nord de l'actuel Liban, pas très loin de Tripoli. Puis, la dernière de leurs forteresses, le Château Pèlerin. On avait parlé du Château Pèlerin la semaine dernière. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, hein, Jean-Yves, plus connu sous le nom d'hospitalier,
hospitalier, hein, oui, bien sûr.
Un ordre de moines soldats, fondé en Palestine en 1113, se replie dans l'île de Chypre. C'est la fin de la présence franque au Levant. Mais revenons 120 ans en arrière. Saladin, de son vrai nom Salah al-Din al-Ayoubi, naît en 1138 en Mésopotamie, dans la ville de Tikrit, cette ville qui n'a pas bonne presse actuellement, puisque c'est la ville natale d'un certain Saddam Hussein, donc dans la ville de Tikrit, au nord de Bagdad. Il est issu d'une grande famille kurde qui a émigré en Syrie. Son père Ayoub et son oncle Shirkou se mettent au service de Noureddin, qui est le gouverneur de la ville syrienne d'Alep. 10 ans après la naissance de Saladin, en juillet 1148, une armée franque conduite par l'empereur d'Allemagne Conrad et le roi de France Louis VII, dit Louis le Jeune, qui, vous vous en souvenez, épousa Aliénor d'Aquitaine, tente de s'emparer de Damas, dirigée par un vieil homme, l'Atabek Ounar. Alors, Atabek désigne dans la langue turque un officier supérieur chargé de l'éducation d'un prince. Et n'oublions pas, en effet, qu'à cette époque, c'est une dynastie turque qui règne sur la région, dynastie qu'on appelle la dynastie des Seldjoukides. Arrivé devant la ville et suivi par des colonnes de dromadaires qui transportent vivres et bagages, l'expédition franque prend position. Un témoin, Ibn al-Kalanissi, raconte, alors je le cite, « C'était un dimanche. Les habitants effectuèrent des sorties dès l'aube. Le combat ne cessa qu'à la tombée du jour, lorsque tout le monde fut épuisé. Chacun revint alors vers ses positions. L'armée de Damas passa la nuit devant les Francs et les citadins restèrent sur les murs à monter la garde et à surveiller, car ils voyaient l'ennemi tout autour d'eux. » Alors, dès le lendemain, les Francs doivent affronter les vagues successives de cavaliers turcs, kurdes et arabes qui attaquent en vagues successives, selon leur fameuse technique, hein, vraiment en vagues successives, c'est-à-dire on s'approche, on envoie les javelines ou les flèches, et puis ensuite on part, et la vague suivante arrive. Alors, enfin, l'horizon se dégage pour les Damasciens, qui apprennent que l'armée de Noureddin arrive le lendemain. Ounar rédige alors 2 messages, le premier adressé aux assiégeants. Alors, c'est un malin, cet Ounar, hein. Il écrit d'abord aux assiégeants « Le roi d'Orient, Noureddin, arrive. Si vous ne partez pas, je lui livre la ville et vous le regretterez. » Et le second message, lui, est envoyé aux Francs installés depuis près d'un demi-siècle et il leur dit « Êtes-vous assez fous pour aider ces gens-là contre nous ?» Donc il parle des Francs de la croisade. « N'avez-vous pas compris que s'ils l'emportent à Damas, donc s'ils gagnent, s'ils vous prennent, ils chercheront à vous arracher vos propres cités. Quant à moi, si je ne parviens pas à défendre la ville, je la livrerai à Saïf ed-Din, donc le frère de Noureddin. Et vous savez bien que s'il prend Damas, vous ne pourrez plus vous maintenir en Syrie. » Donc c'est un petit chantage en disant, bon, si Damas est prise, eh ben, vous repartirez avec les débris de l'armée franque. Alors la manœuvre du vieil Oumar est un succès. Il parvient par cet accord secret à convaincre les Francs orientaux de dissuader le roi allemand Conrad de prendre Damas et de s'éloigner avant l'arrivée de l'armée de secours menée par Noureddin. Harcelé par des centaines de Damasquins déterminés, l'armée franque essaye de se replier d'abord en bon ordre. Alors là, ça a beaucoup étonné les Arabes, les Orientaux, parce qu'ils avaient le souvenir d'armées franques extrêmement pugnaces, extrêmement au point. Et là, ils ont été un petit peu étonnés du manque de résistance de l'armée qui finalement est partie assez vite. Et la retraite, en fait, effectivement, tourne vite à la débandade et les deux rois, Conrad et Louis VII, ne songent plus qu'à sauver les débris de leurs deux armées en se repliant aussi vite que possible vers Jérusalem, puisque c'est eux qui tenaient Jérusalem, il ne faut pas l'oublier. Alors, Ounar meurt 1 an après cette victoire inespérée, mais pour tous, le véritable vainqueur est Noureddin, qui écrase une année plus tard, en 1149, l'armée de Raymond, le prince d'Antioche, et que Shirkou, l'oncle de Saladin, tue de ses propres mains. Saladin que nous allons rencontrer maintenant après une pause musicale.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux, ils vont des petits suis le roi de ce drap à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le soulier, usez l'usurier, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Alors tout le monde a reconnu bien évidemment Alain Bashung, Osez, Joséphine. Mais revenons à nos croisades. Saladin. La première image qui nous vient à l'esprit est celle d'un prince éclairé doublé d'un redoutable stratège. Né en Irak, il est le fils d'Ayoub et fondera la dynastie des Ayoubides, Ayoub Ayoubide, qui remplacera celle des Turcs Seldjoukides. C'est un Kurde de confession musulmane sunnite, autrement dit orthodoxe, qui adhère à la sunna, un mot arabe qui signifie la tradition. Alors pour les sunnites, sunnites, je sais pas comment on dit, en revanche, les successeurs du prophète Mahomet sont les quatre premiers califes omeyyades et abbassides, alors que pour les chiites, cette succession doit passer par Ali qui a épousé Fatima, Fatima, vous le savez, la fille du fondateur de l'islam, donc du prophète. Ce schisme qui date du 7e siècle est toujours source de conflits entre les musulmans et Saladin lui-même considérera que la lutte contre les chiites a la même importance que la lutte contre les francs. Donc, il les aime ni les uns ni les autres.
Il s'est toujours passé des histoires un peu combatives là-bas. Hein, et ça continue.
Pas rien que là, malheureusement, Jean-Yves. Alors, depuis 1162, les Francs ont un nouveau roi à Jérusalem, c'est Amaury. Lui aussi rêve de conquérir l'Égypte. C'est en 1153 que les chevaliers francs s'étaient emparés de la ville d'Ascalon, une victoire qui leur a ouverte la route du Nil. La situation en Égypte est véritablement chaotique. Les vizirs, un mot arabe qui veut dire portier, que les Turcs ont repris pour désigner l'équivalent chez nous, on dirait, d'un premier ministre. Donc les vizirs, empêtrés dans des conflits permanents, ont pris l'habitude de payer un tribut aux francs pour les dissuader d'intervenir dans leurs affaires. Grosso modo, pour avoir la paix. On vous donne du fric et vous nous fichez la paix. Alors, Amaury profite de la confusion politique en Égypte, prétextant que le tribut annuel convenu n'a pas été payé. Hein, quand pour attaquer quelqu'un, il faut toujours un casus belli. Hein. Donc, il rassemble son armée. Il traverse le désert du Sinaï et vient mettre le siège devant la ville de Bilbeis, située dans le delta. Mais l'expédition tourne court. Effectivement, nous sommes au mois de septembre, à l'époque des premières crues du fleuve. Alors ça fait bien rigoler les Francs tout ça, parce que ils rompent quelques digues et l'armée d'Amaury doit... ils rompent quelques digues et l'armée d'Amaury doit en urgence abandonner ses positions et regagner en toute hâte la Palestine. Saladin commence sa carrière militaire quand son oncle Shirkou lui demande de l'accompagner dans une campagne militaire en Égypte. Le but de l'expédition consiste à redonner le pouvoir au vizir Chauder, qui a été destitué par Dirgam, un vizir concurrent. Donc on voit que la politique, la lutte du pouvoir en Égypte est vraiment importante. Nous sommes en 1164. Le jeune homme qui a 26 ans n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, ravi de ce projet. Et il aurait déclaré, Saladin, par Dieu, si l'on me donnait tout le royaume d'Égypte, je n'irais pas. Bon, franchement, il n'est pas chaud, hein. Il s'y résout quand même, faut bien obéir à Tonton. Et c'est une campagne éclair que Shirkou mène alors, un véritable modèle de stratégie militaire. Tandis qu'une partie de ses forces menées par Noureddin attire Amaury et ses chevaliers au nord de la Palestine, Shirkou, à la tête de 2000 cavaliers, suit le cours oriental du Jourdain, contourne par la mer, par le sud de la mer Morte, et tout en restant à l'intérieur des terres pour éviter d'être repéré, fonce sur la ville, donc sur Bilbès, toujours tenue par les Francs, dont il s'empare le 24 avril 1164. Une semaine plus tard, son armée campe sous les remparts du Caire, mais coup de théâtre! Le vizir Shower, à peine revenu au pouvoir, exige que Shirkou et son armée quittent l'Égypte, ce que ce dernier refuse. Le vizir envoie alors un message au roi Amaury, hein, le roi Amaury contre lequel il était et que les Arabes avaient aidé le vizir à lutter contre Amaury. Ben là, retournement. Donc, il envoie un message au roi Amaury, l'ennemi de la veille, on peut dire, message dans lequel il lui demande d'envoyer un corps expéditionnaire pour chasser Shirkou. Voilà, c'est vraiment... tourné du tout au tout. Alors Amaury accepte immédiatement, évidemment, et dès juillet 1164, l'armée franque du roi de Jérusalem repart en direction de l'Égypte. Et c'est une leçon que Saladin n'oubliera pas, comme nous le verrons la semaine prochaine. Alors à lire, pour en savoir plus, De Toulouse à Tripoli, itinéraire de culture croisée aux éditions Hammam, Orient et Occitan au temps des croisades de l'historien Claude Cahen, membre de l'Institut aux éditions Aubier, Atlas des croisades de Jonathan Ridley-Smith, professeur à l'Université de Londres, et considéré comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des croisades, c'est aux éditions Autrement, La croisade vue par les Arabes, du journaliste et romancier Amin Malouf chez Jean-Claude Lattès, et un DVD, Kingdom Heaven, en français Le Royaume du Paradis, de Ridley Scott, avec entre autres acteurs Orlando Bloom et Liam Neeson. Alors Jean-Yves, on arrive à ta leçon, le travail du cheval en main, plus précisément la tenue des rênes. Comment faut-il faire ?
Bon, d'abord, on commence à se mettre à gauche, à hauteur de l'épaule du cheval, et on prend dans sa main gauche la reine gauche, le plus près possible de la bouche, de manière à pouvoir faire des pressions. On le tient comme un kimono de judo, toujours pareil, quoi. L'équitation, c'est un art martial, donc il faut prendre les mêmes attitudes, les aptitudes que dans les arts martiaux. Et on prend avec sa main droite la reine droite, et on marche au pas, avec son cheval, au trot, avec son cheval, au galop, avec son cheval. On s'accorde comme un pas de danse, exactement pareil. Alors ce qu'il faut, c'est ne pas gêner le cheval dans son déplacement, et puis pouvoir agir et lui donner des indications. Donc pour faire un effet d'ouverture, eh bien, on retire un peu plus d'un côté que de l'autre. Pour faire un effet d'appui, eh bien, on pousse un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, mais toujours une attitude haute, le regard haut, le buste droit, les épaules effacées, on marche au pas, élastique, souple, en laissant traîner au maximum les pieds au sol. Hein, comme si on était un peu plaqué ou collé au sol, comme se déplacent les lutteurs de sumo, les karatéistes, les judokas et tous les gens qui ont besoin de leur équilibre pour agir.
Alors c'est quand même extraordinaire parce que c'est un petit peu comme les Amazones dans le sens où le cavalier effectivement tient les rênes avec les mains, mais les jambes il les remplace, les jambes servent à marcher, il les remplace avec quoi les jambes ?
Mais on mime. Quand on était à l'école, à la récréation, on mimait le cheval, on faisait le pas, on marchait comme l'élastique, un peu comme le cheval, on faisait le trot et on faisait le galop, on faisait la courbette, on faisait le piaffé, on faisait tous les airs d'école. On jouait au cheval.
Voilà, mais le cheval qui n'est pas poussé avec les jambes, comment comprend-il la chose?
Ah, mais il faut être avec, hein. Tu pousses pas une danseuse avec les jambes, tu l'accompagnes dans le mouvement. Donc, tu es avec, c'est le mouvement avec, c'est en relation avec le déplacement dans l'air. Mais la voix est importante parce qu'il faut.
La voix est importante,
faut savoir parler au cheval. Il dit au pas, au pas, au pas, le cheval comprend et va au pas, au trot, au trot. vautours. Moi, j'ai vu des forestiers sortir des arbres avec leur mulet, uniquement avec la voix, en commandant le mulet avec la voix. Le cheval est sensible à l'intonation et donc il réagit selon l'intonation qu'on lui donne.
Donc, Jean-Yves, on ne répétera jamais que la voix fait partie aussi des aides.
Absolument, je ne comprends pas.
Avec la main, avec la jambe, avec l'équilibre, avec l'assiette, etc.
Alors que dans les concours de dressage, c'est interdit.
C'est interdit, oui, c'est cela.
Et c'est bien dommage.
C'est bien dommage, oui, mais enfin, bon. Ou alors, il faut être très discret.
Ça fait partie de la haute école sans éperon. Par la voix gracieuse, on peut convaincre, on peut exciter, on peut calmer, on peut tout faire, on peut faire passer le message.
Alors, si je comprends bien, quand on monte dans une épreuve de dressage, il vaut mieux être un chuchoteur qu'un hurleur.
Ah ben oui, tout à fait, oui, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit, oui, oui, tout à fait. D'accord. Et puis alors, travailler à pied aussi, ça...
Ou alors, il faut parler avec le langage intérieur.
Ou parler avec le langage intérieur, voilà.
Penser fortement, la radiesthésie, c'est un peu ça, le langage intérieur. Parler fortement, penser fortement, et puis le cheval réagit comme ça.
Alors évidemment, il faut que les allures du cheval soient très rassemblées, évidemment, surtout au trot et au galop, parce que sinon on aurait du mal à le suivre.
Ah mais ça dépend, on peut le suivre aussi dans une allure rapide. Hein,
une allure rapide,
c'est
oui.
Avec son mouvement, il faut indiquer avec le mouvement.
Alors, le dicton de la semaine, c'est à l'heure où les merles chantent qu'il convient de te lever. Pour retrouver ton cheval, il t'attend.
Oui, bien sûr, c'est au lever du jour, c'est à la tombée de la nuit, dès que le jour se lève. C'était au chant du coq aussi. Et les merles commencent à siffler, et c'est là qu'il faut commencer, parce que les chevaux aussi se réveillent, ils viennent de dormir un peu, et ils se réveillent, donc tout le monde se réveille en même temps.
Voilà. Alors c'est vrai qu'actuellement, on les entend vers 5h, 5h30 du matin, à Rodez même, en ville, et c'est extraordinaire. Enfin, c'est un chant, c'est très très mélodieux.
Ah ça, les mères sont contents en ce moment.
C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non. Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du ciel, d'aiguement. En passant par Salmière, tu langues d'Ocorouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyonne, les Vézoux, Salmière, milieu du sel. Patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez. En entrer dans la légende de la route.